Bonjour, bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kallmann. Son surnom ? Barbecue. Un ancien policier devenu chef de gang menace de guerre civile Haïti si le Premier ministre ne démissionne pas. Le Conseil de sécurité de l'ONU exprime sa profonde préoccupation face à la situation critique dans le pays. Haïti, surnommée il y a longtemps la perle des Antilles. Aujourd'hui, c'est le pays le plus pauvre des Amériques. Haïti confronté à une crise politique sans fin, une crise écologique, économique, sociale et humanitaire. Une des raisons, et sans doute la principale, les gangs qui contrôlent des pans du pays entier, dont 80% de sa capitale, Port-au-Prince. La violence est encore montée d'un cran ces dernières semaines. Les gangs ont annoncé se liguer contre le gouvernement. Depuis, ils mènent des attaques contre des infrastructures et des sites stratégiques.
La violence atteint des sommets depuis une semaine dans la capitale Port-au-Prince où les gangs sont en train carrément de prendre le pouvoir.
Un homme incarne ce chaos, c'est Jimmy Chérizier, ancien policier devenu chef de gang. Son surnom là-bas ? Barbecue. Il menace ce matin d'une guerre civile sanglante si le Premier ministre haïtien ne démissionne pas.
Barbecue, 46 ans, de son vrai nom donc, Jimmy Chérizier. Arme à la main et vêtu d'un gilet pare-balles, Barbecue est un ancien membre d'une unité spéciale de la police. Confronté à la violence des gangs pendant près de 15 ans, l'homme a fini par passer de l'autre côté et adopter les méthodes sanguinaires. Barbecue a profité de sa réputation d'intouchable ces dernières années pour élargir encore plus son influence. Il est parvenu à fédérer les 9 bandes les plus dangereuses de la capitale qui lui ont prêté allégeance. Ce 5 mars 2024, il a carrément lancé un ultimatum au gouvernement haïtien.
Si Ariel Henry ne démissionne pas, si la communauté internationale continue à le soutenir, nous irons directement vers une guerre civile qui va déboucher sur un génocide.
Soit Haïti devient un paradis pour nous tous, soit un enfer pour nous tous, a ajouté l'ancien policier. Jimmy Chérizier, qui a reconnu que des exactions avaient bien été commises par des membres du gang.
Oui, nous sommes conscients que des hommes armés ont commis des actes nuisibles à la société. Mais aujourd'hui, s'ils en prennent conscience et demandent pardon, je pense que la société doit leur pardonner et s'unir pour repenser à une nouvelle Haïti.
Barbecue appelle la population à aller de l'avant et à se soulever contre Ariel Henry, Premier ministre haïtien. Désormais, rien ne semble pouvoir arrêter cette nouvelle alliance de bandes armées surnommé G9 en famille. Depuis plusieurs jours donc, la situation en Haïti est chaotique. Le 1er mars, des échanges de tirs éclatent dans la capitale haïtienne. Les attaques sont coordonnées. Des attaques destinées à renverser le Premier ministre Ariel Henry. Ce dernier, à l'heure où j'enregistre ce podcast, n'a toujours pas pu rentrer dans son pays après un voyage au Kenya. Un voyage pour signer un accord afin d'envoyer des policiers en Haïti. Une mission internationale soutenue par l'ONU. Selon le média dominicain CDN, l'avion privé du Premier ministre a atterri à Porto Rico, territoire américain des Caraïbes, après s'être vu refuser un atterrissage en République dominicaine, pays voisin d'Haïti. Les relations sont très tendues entre les deux pays. Ce 1er mars donc, les habitants de Port-au-Prince sont en fuite, mais ils ne savent même pas où se rendre, comme cette femme, Marie Carmel.
En janvier de l'année dernière, j'habitais à Pernier. Mon mari a été tué devant moi et je me suis réfugiée à Carrefour-Feuille, où ils ont encore incendié ma maison. Voici toutes mes affaires, tout ce que je peux transporter. Je me retrouve à traîner mes affaires dans la rue. Ariel Henry doit faire quelque chose. S'il veut le pays, qu'il nous donne une chance d'y vivre paisiblement. J'ai 62 ans et je n'en peux plus.
Il y a aussi cet habitant, danois Auguste, complètement désemparé.
J'aimerais prendre soin de ma famille. Je n'y arrive plus. Je ne peux même pas rentrer chez moi. C'est plus possible. Je suis dans la rue en attendant de pouvoir rentrer. tout est paralysé. Je suggère qu'on garde les enfants à la maison, quitte à ce qu'ils perdent une année scolaire. On doit les protéger, la situation devient catastrophique.
Les scènes de chaos se poursuivent. Dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mars, des policiers tentent de repousser l'assaut des gangs criminels contre le pénitencier national ainsi que la prison de Croix-des-Bouquets. Plusieurs milliers de détenus sont libérés et au moins une dizaine de personnes sont tuées. La capitale haïtienne déclare aussitôt l'état d'urgence. Un couvre-feu est instauré pendant 72 heures pour limiter le chaos. Les habitants sont terrorisés.
La situation est de pire en pire. La police ne peut rien contre les assauts des bandes armées. Nous devons être en sécurité. Nous ne demandons rien de plus, juste la sécurité pour pouvoir vivre.
Après l'attaque de la prison, un journaliste de l'agence France Presse a pu se rendre sur place. Il a vu une dizaine de corps autour du bâtiment. Certains avaient été touchés par des balles ou par des projectiles. Le reporter a pénétré dans le bâtiment, dont la porte était ouverte. Il a raconté qu'il n'y avait quasiment personne. Aujourd'hui, même si un calme relatif semble revenir dans les rues de la ville de Port-au-Prince, une habitante crie sa détresse d'être abandonnée par l'État.
Les autorités étatiques nous laissent misérablement livrés à nous-mêmes dans la rue. Avec le pays bloqué actuellement, la faim est en train de nous tuer dans le pays.
Selon l'ONU, l'escalade de ces derniers jours a forcé 15 000 personnes à fuir leur domicile à Port-au-Prince. Depuis le début de cette année 2024, près de 1 200 personnes ont été tuées. Volker Türk, haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, dénonce une situation insoutenable.
J'appelle encore une fois au déploiement urgent, sans plus attendre, de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, afin de soutenir la police nationale et d'apporter la sécurité au peuple haïtien dans des conditions conformes aux normes et standards internationaux en matière des droits humains.
L'Association des hôpitaux privés d'Haïti a de son côté lancé un appel à l'aide. La situation est critique car il y a une pénurie sévère d'oxygène. Bonjour Jean-Marie Théoda.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université Panthéon-Sorbonne, directeur de l'Institut de géographie de Paris, mais aussi enseignant à l'Université d'État d'Haïti. J'imagine que vous avez eu des proches au téléphone depuis que la situation s'est tendue ces dernières semaines. On a entendu des habitants dans le récit qui vous précédait dire qu'ils n'avaient jamais connu un tel niveau de violence. Vous confirmez ?
Je le confirme, dans la mesure où avec plus de 5000 morts l'année dernière, nous avons une comptabilité qui est celle d'un pays en guerre. Et jamais nous n'avons été aussi proches du chaos en Haïti.
Vous avez encore des parents sur place. Qu'est-ce qu'ils vous disent ?
J'ai des parents, j'ai des amis très chers qui sont en Haïti et qui vivent le sentiment d'une ville assiégée. Ils sont sur le qui-vive parce qu'il y a des tirs sporadiques d'un peu partout. On ne sait pas à quel moment ça va arriver. Et donc, les gens vivent une situation de panique, de vraie panique. Il y a vraiment un peuple en danger ici.
Si le Premier ministre Ariel Henry ne démissionne pas, si la communauté internationale continue de le soutenir, nous allons tout droit vers une guerre civile qui conduira à un génocide. Ce sont les mots de Jimmy Cherizier, surnommé Barbecue. Tout d'abord, pourquoi ce surnom ?
Ce surnom lui vient du fait que dans son enfance, il vendait des brochettes grillées dans les rues de Port-au-Prince. C'est dire donc que c'est une sorte de caricature d'enfant des rues qui prend une sorte de revanche sur la société en la terrorisant après lui-même probablement avoir subi une violence symbolique très forte quand il était jeune. Donc c'est un bandit, c'est un brigand, c'est un ancien policier qui a largement participé au trafic de drogue et qui s'est enrichi avec les prises d'otages de personnes innocentes depuis aujourd'hui pratiquement une dizaine d'années. Donc c'est aujourd'hui un brigand qui se fait passer pour un révolutionnaire. Honnêtement, c'est comme si Pablo Escobar aujourd'hui se déguisait en Che Guevara pour se donner des allures messianiques.
Il a reconnu des exactions de la part de certains membres de son gang et en même temps, il appelle la population à se soulever.
C'est une façon cynique et véritablement honteuse de s'envelopper dans une posture révolutionnaire, une posture empathique vis-à-vis du peuple qu'il a toujours méprisé. Il faut rappeler que Barbecue, en plus d'être donc un policier corrompu, un gangster, un assassin, a eu aussi à faire littéralement griller ses victimes. Et c'est pour cela que lorsque nous disons Barbecue, c'est à la fois pour son passé d'enfant des rues, mais aussi parce que il y a eu notamment en 2018 des exactions commises à La Saline, où après avoir assassiné ses victimes, il les a fait passer sur le feu, sur le grill. Il y a eu des scènes absolument horribles qui ont circulé sur les réseaux sociaux et qui ont donc renforcé l'idée d'un boucher dans la personne de Barbecue.
Concrètement, ces dernières semaines, où se situe la bascule ? Qu'est-ce qui a permis finalement le contrôle de plusieurs zones dans la capitale haïtienne par les gangs ?
Je pense que c'est d'abord un sentiment d'impunité, parce que cela fait au moins 3 ans que Haïti est un violon sans maître, avec un président de la République assassiné.
Le président Jovenel Moïse était en juillet 2021.
Assassiné le 7 juillet 2021, le Premier ministre qui s'est autoproclamé chef de l'État, qui est totalement illégitime, qui n'a jamais reçu le moindre appui de la part de la population. C'est pour cela que si point de bascule il y a, il se trouve dans le sentiment que, avec l'absence du Premier ministre qui était en voyage au Kenya, qu'il pouvait apporter le dernier clou au cercueil de l'État haïtien, c'est-à-dire prendre d'assaut l'aéroport, les principales prisons, des commissariats de police, et finalement menacer ce qu'il reste de pouvoir symbolique en Haïti. Donc le point de bascule, c'est, je dirais, le discrédit total du Premier ministre absent, qui donne aux gangsters le sentiment qu'ils sont les bienvenus aux portes du pouvoir.
Vous dites qu'il n'a aucune légitimité, ce Premier ministre. C'est aussi finalement ce que dit celui que l'on surnomme Barbecue.
Le problème, c'est que Barbecue n'a pas plus de légitimité que le Premier ministre à tenir ce genre de discours. Il est d'autant moins légitime à le faire qu'il a été lui-même l'instrument de la déstabilisation sociale, qu'il a été l'instrument de la violence politique et sociale qui a ensanglanté les quartiers de Port-au-Prince. Donc c'est vraiment le comble de l'ironie, le comble du cynisme, que celui qui est l'élément principal du problème se présente aujourd'hui comme le remède.
On rappelle d'ailleurs que Ariel Henry, aujourd'hui, n'a toujours pas regagné le pays.
Il ne peut pas, il est bloqué à Porto Rico, sachant que l'aéroport de Port-au-Prince est encerclé par des gangsters qui tirent sur tout objet volant qui approche. Haïti est aujourd'hui un véritable trou noir dans la Caraïbe, avec impossibilité d'entrer ou de sortir. Et c'est bien pour cela que le Premier ministre ne peut pas rentrer au pays.
Mais alors comment peut-on imaginer une sortie de crise ?
La sortie de crise en Haïti, ça fait 3 ans que nous l'attendons. Cela fait 3 ans que nous promet une aide internationale. Ça fait 3 ans que tous ceux qui auraient pu nous aider y vont à reculons, en essayant de se passer le bébé comme si c'était un pestiféré. De sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve avec les Kenyans, qui sont un pays totalement étranger par rapport à notre univers culturel, notre univers quotidien, un pays qui n'a rien à voir avec Haïti.
D'où le voyage d'ailleurs d'Ariel Henry au Kenya pour signer cet accord.
Sauf que le Kenya va envoyer 1000 policiers pour affronter des milliers de gangsters armés jusqu'aux dents. Donc il y a une telle disproportion entre le mal à résoudre et les moyens qui vont être envoyés en Haïti que ça paraît d'emblée une mission impossible.
On entend aussi la détresse des habitants qui disent que ça fait des années qu'ils se sentent abandonnés finalement par l'État.
Moi je dirais des siècles. Haïti vient de fêter le 220e anniversaire de son indépendance et en 220 ans, je pense qu'il y a des espaces, des coins du territoire qui n'ont jamais vu apparaître un agent de l'État, même pas un médecin, même pas un infirmier. Haïti est un pays abandonné depuis 200 ans, qui connaît une situation de solitude existentielle. Et aujourd'hui, cette solitude, nous sommes en train de la payer au prix fort.
On a l'impression que la communauté internationale a essayé d'aider, notamment quand il y a eu ce séisme en 2010 avec plus de 200 000 morts. Et puis finalement, l'aide n'est pas arrivée comme elle aurait dû.
Nous avons le sentiment en Haïti qu'on nous a fait miroiter un avenir meilleur qui n'a jamais pris forme. En 2010, il y a eu un élan de solidarité, plus de 9 milliards d'aides qui ont été débloquées. Mais cet argent est revenu vers les bailleurs par des biais détournés, parce que nous savons que seules les ONG, on considère que 92% de l'aide qui a été donnée à Haïti est passée par les mains des ONG et seulement 8% pour le reste du pays.
Voilà, Haïti qui est traversé par une crise économique, une crise politique, écologique, sociale, humanitaire. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que le pays retrouve ou tente de retrouver une stabilité?
Vous savez, c'est très difficile en politique de faire des yakas et des faucons. Et je suis bien placé pour savoir que la situation est complexe. Il faudra donc des solutions complexes aussi. Mais ce que l'on peut dire, à minima, c'est qu'il n'y a pas de solution sans la sécurité de l'espace public. Dans un premier temps, il faudra refouler ces bandits. Je ne sais pas par quel moyen, je ne sais pas avec qui. Ce n'est peut-être pas le moment d'en discuter, mais il est évident que il faudra, d'une manière ou d'une autre, mettre ces bandits derrière les barreaux, au moins.
Je vous remercie beaucoup, Jean-Marie Théoda, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
Je vous en prie, un plaisir.
Et merci à Marie Aimé pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au titre à la une. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Ainsi, vous ne raterez aucun numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.